stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, Lucille Como, Jean-Christophe Brianchon et Florent Georgesco pour parler ensemble de Un œil en moins de Nathalie Quintane, Le baron perché d'Italo Calvino dans une nouvelle traduction de Martin Rueff, Qui a tué mon père d'Edouard Louis. Boris Pinault est là avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour Bérénice, mise en scène par Célipote. Des places à gagner pour mardi 29 mai à 20h aux ateliers Berthier, Théâtre de l'Odéon à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un auteur que j'apprécie particulièrement. Nos auditrices et auditeurs fidèles le savent bien, Nathalie Quintane. C'est d'elle qu'il s'agit, à ceci d'extrêmement précieux, qu'elle est à la fois une aventurière exemplaire de la forme et en même temps une observatrice très fine de nos sociétés contemporaines. Ce « en même temps » est plus que jamais requis avec « Un œil en moins », un livre qui cherche à analyser les mots, le discours, qui parle de politique, de médiatisation de celle-ci, de l'année 2016 en l'occurrence. Elle va donc évoquer, traverser, nuit debout, la question des migrants ou de Notre-Dame des Landes.
Plus 1, ça fait 101, 101 mars. C'est un long mouvement. C'est un long mouvement sur la place de la République, nuit debout.
En mars ?
1000 jours en mars ?
1000 jours en mars.
Le 31 mars 2016, au soir, la nuit debout a pété les calendriers. Depuis, le mois de mars s'étire. Personne pour prédire jusqu'à quand il durera.
Cette fois, je prends le temps de faire le tour de la place. Je voudrais comprendre pourquoi je suis d'emblée déprise, que je le savais et allais contre. C'est une balade. Je remarque enfin le grand café Fluctuate, au beau milieu, quelle drôle d'idée. Son grand parvis d'eau est traversé par une fillette à trottinette qui trace un sillon. Une poignée de skaters évite les passants en sautant et chopant leurs planches au vol. Peu de monde là, mais c'est dense par où j'entre, en remontant côté dalle. Le dalle et à côté l'infirmerie, c'était à peu près tout les premiers jours. J'étais allé demander au petit accueil en carton « Mais pourquoi vous n'empruntez pas la sono du dalle ?» C'était les seuls à avoir une sono. « On n'entend rien, on s'entend pas même quand on est à 3 mètres. » Il m'avait répondu « Non, non, on veut se débrouiller tout seul, on doit tous apporter quelque chose. » De fait, le lendemain, il y avait déjà une toile de tente, de quoi manger, du matos pour l'infirmerie. Pour le moment, on donnait du café. En cercle, assis par terre, on débattait, une trentaine. Deux prenaient des notes, un autre répartissait la parole, on parlait des modalités de vote, lent. J'étais en train de comprendre, avec les autres, tout ce que ça impliquait, ce mouvement. Je vivais l'un des plus beaux moments de ma vie. Je me disais, c'est le plus beau moment de ma vie. Ensuite, aux premiers amis que j'ai rencontrés, j'ai dit, c'est le plus beau moment de ma vie. Je me souviens d'avoir téléphoné à C, à Marseille, qui était déprimé, et lui avoir dit, eh ben, c'est pas le moment, vu que tu vas vivre le plus beau moment de ta vie. Le lendemain, je suis revenu. Une commission s'était extraite pour rédiger un texte d'accueil à la mère, qui viendrait peut-être. Elle s'était fait rembarrer la veille lors d'un débat qu'on avait interrompu. Je me suis dit que c'était ma commission naturelle, en quelque sorte, cette commission de rédaction de texte. On s'est tous mis à construire ce texte, ajoutant un mot, changeant une phrase. Un texte qui n'a pas été lu parce que le point crucial de savoir si, oui ou non, nous devions nous adresser aux autorités avait déjà été résolu. C'était non. Le cadre, l'adresse rituelle aux autorités, l'emporte toujours sur son contenu. Cela, j'en faisais depuis 30 ans l'expérience dans l'éducation nationale, où les choses ne changeraient un jour que si, et seulement si, on changeait le système des salles, les chaises, les tables, la colle des papiers peints qui puait, et surtout l'emploi du temps, le rythme dominant, ses divisions, ses sons, ce qu'ils organisaient pour chacun d'implicite. Je reprends la balade. Voilà quelques paragraphes de ce livre imposant par sa pagination pour Nathalie Quintaine, qui nous a plutôt habitués depuis une vingtaine d'années à des volumes plus courts et pas moins denses pour autant. On commence à en parler avec vous, Lucille Comeau, de ce livre « Un œil en moins » chez POL.
Oui, et d'ailleurs Nathalie Quintaine, sur la quatrième de couverture, elle dit « Tiens, et si pour une fois je sortais un pavé ?» Donc évidemment,
j'avais pas lu encore, mince. Merci, heureusement que vous êtes là.
Avec le pavé qu'on peut potentiellement lancer à un CRS, mais aussi, il y a un geste qui est fort, ne serait-ce que dans l'épaisseur de ce livre, c'est qu'il a fallu une grande occasion pour écrire un grand livre. Et donc cette grande occasion, c'est... Alors, vous avez lu un passage qui n'est pas forcément représentatif de tout le livre, puisque en effet on part debout.
Il y en a
debout.
Pas, je crois. C'est
oui,
ça.
Ça part un petit peu dans tous les sens.
Dans beaucoup de sens.
Oui. Et il en est question hein, de Nuit debout. Beaucoup. D'ailleurs, Nuit debout est assez peu citée en tant que telle. On devine qu'il s'agit de ce mouvement-là parce qu'il y a des notations, notamment sur le calendrier alternatif qui a été mis en place au moment du mouvement.
Et la place
il y a en
la
effet
République.
La place de la République, mais le terme en soi, Nuit debout, et je pense que c'est important, n'est pas cité. C'est un livre qui englobe en fait tout un... plein de militantisme et plein d'engagements différents qui sont une constellation parce qu'ils sont évidemment liés les uns aux autres, mais ça nous emmène aussi dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et aussi ça se termine par, à mon avis, ce qui est le plus intéressant et là où le livre est le plus beau, sur la solidarité avec les migrants. Tout ça est évoqué sur un mode extrêmement personnel avec le jeu et le nous qui domine, et ce qui donne une idée de l'engagement de la narratrice qui est évidemment aussi l'auteur. Ce qui est très émouvant et ce qui en fait donne une clé d'entrée dans le livre et à mon avis dans sa langue, c'est qu'elle se définit comme une nouvelle dans cette forme de militantisme. Donc on accède en tant que lecteur à ça avec un regard extrêmement naïf qui porte du coup à la fois un très grand enthousiasme sur les choses et une certaine forme de cynisme, j'y reviendrai, mais on a vraiment ces deux pans-là qui sont contradictoires et qui font que à la fin du livre, on a quand même une impression extrêmement douce, amère sur tous ces mouvements-là. Donc elle parle évidemment de tous les codes des mobilisations, la manière dont on applaudit, la manière dont on rédige des tracts, la manière dont on les distribue, et puis des risques qu'on encourt, qui sont réels. Elle a été convoquée par la police, elle le raconte, on peut se faire arrêter, on a besoin d'autorisation pour manifester sur la voie publique, toutes choses très simples qu'elle raconte avec beaucoup d'humour. Donc il y a un côté un peu manuel de la manif, mais évidemment peu objectif. C'est surtout, à mon avis, un grand ouvrage de poésie. D'ailleurs, c'est pas mais surtout, c'est un grand ouvrage de poésie sur la manifestation. Il n'y a pas du tout de contradiction dans les termes. Moi, j'ai l'impression qu'elle travaille la matière même de l'engagement dans sa langue à elle. Et d'ailleurs, c'est aussi un livre de retour sur sa propre écriture et sur sa propre œuvre. Il y a beaucoup de notations sur son travail, sur la manière dont elle a travaillé jusqu'à maintenant. Il y a aussi un jeu, et là on voit qu'elle travaille vraiment la matière poétique sur les nouveaux mots, tous les nouveaux mots qui entrent dans la langue à l'occasion de ce type de mouvement, énormément de sigles. Enfin, elle joue vraiment beaucoup avec ça, notamment quand elle décrit tout l'enfer administratif par lequel doivent passer les migrants quand ils arrivent pour réussir à avoir des papiers. Il y a un nombre de sigles, de mots, de codes qu'elle a complètement découvert. C'est comme une sphère, à la fois une sphère d'engagement et une sphère mentale, une sphère linguistique qui s'ouvre à sa poésie. Moi, je suis très très enthousiaste sur ce livre.
Je reviendrai vers vous. Florent Georgesco, sur celui de Nathalie Quintaine.
Alors, je vais peut-être attaquer sur ce que vous disiez de juste, Lucille, sur la...
Après, sur ce que vous disiez de faux.
Oui, c'est ça.
Vous avez compris.
Non, non. C'était très bien, mais on peut dire d'autres choses, simplement. Non, mais une chose particulièrement juste que vous avez dite, c'est sur le rapport à sa propre œuvre et sur l'évolution. Il y a un passage... je pense assez important pour elle dans le livre, où elle parle du rapport que elle et les siens, si je puis dire, dans son monde à l'intérieur de la poésie, le rapport qu'ils avaient à la politique et à la poésie comme politique. Elle dit, nous pensions que l'acte poétique lui-même était un acte politique, j'espère que je ne mélange pas les mots, et nous arrivons dit-elle, et ce livre, je pense, pour elle, incarne ça, à un moment où, ça ne suffit plus. Où ce n'est pas l'acte poétique en lui-même qui débouche sur la politique, mais c'est à condition qu'il prenne sur lui la politique réelle en train de se faire, qu'il peut devenir, qu'il peut reprendre sens dans cet ordre-là. Donc ce livre, c'est ça. Et donc c'est l'introduction de la politique comme pratique concrète, comme question extérieure au texte. Et c'est très clairement défini par tout le rapport à la réalité historique, à la réalité de cette année 2016 en l'occurrence, qui, comme vous le disiez, enfin, je crois qu'elle n'emploie jamais l'expression nuit debout, mais enfin bon, elle donne des indices précis, très clairs de la réalité de ça. Donc, il y a un moyen d'aborder, de questionner en tout cas ce livre, c'est de le questionner sous ce rapport au réel politique. Et moi, c'est ce qui fait que je ne partage pas l'enthousiasme de Lucile, et j'en suis même assez loin, c'est la densité de la question politique dans ce livre, qui moi me paraît un ratage complet à cet égard. Quelle est la politique qui est dans ce livre? Quelle est l'articulation politique des choses? Comment... Quel questionnement politique il y a? Quel rapport il y a à ce pour quoi on lutte? J'ai eu en permanence le sentiment que tout était dissous dans une sorte de vaste évidence. On lutte parce que on est le bien et qu'en face il y a le mal. On lutte parce que la société devient fasciste. On lutte parce que ceci et cela, on peut y revenir. Je mets de côté d'ailleurs la question des migrants qui est plutôt dans la deuxième partie du livre, où il y a d'autres choses à dire sur la réalité du combat politique, à mon avis. Mais pour ce qui concerne tout le début sur Nuit Debout, de quoi s'agit-il, au juste? On lutte pour quoi, là-dedans? À quel moment articule-t-elle une idée politique? À quel moment que sait-on sur la... À un moment, elle donne quelques noms d'hommes politiques, avec un jeu qui n'est pas... le plus génial de sa création poétique, elle parle de Manu Macron et de Manu Valls. Bon. Que dit-elle de Manu Macron? Elle dit un moment ce qu'il représentait, lui. Que dit-elle de la politique qu'elle voit chez lui? Elle dit ce qu'il représentait. Au lecteur de mettre du contenu là-dedans. Ça doit être une évidence. On est dans un monde, elle décrit un monde où tout est une évidence. C'est une évidence que Macron représente. Eh bien, remplissez vous-même le vide. Elle ne le dit pas. Elle ne définit pas ça. Quant à Valls, elle en parle en parlant de... Comment dit-elle exactement? Comment peut-on arborer une tronche aussi ridicule? Voilà ce qu'elle dit de Valls. Ben, excusez-moi, mais que dit-elle d'autre? Non, elle ne dit que ça.
Ben, on va reprendre.
J'ai cherché en vain. Quel est le contenu politique de tout ça? Il y a d'un côté...
Il y a toutes les pages, mais elle parle.
Il y a un mot dans l'extrait que vous avez lu, Arnaud, quand elle parle de l'école, ce qu'ils imposaient d'implicite, dit-elle de tout ce dont elle a parlé là. D'implicite. On est en permanence devant l'implicite. Vous pouvez avoir le sentiment que tout est présent dans le texte, mais ça ne l'est que sous la modalité de l'implicite. Encore une fois, il y a la sale tronche, je cite, de Manuel Valls d'un côté, et de l'autre, dit-elle à un autre moment du livre, les visages sympathiques des gens de Nuit Debout. Mais en quoi? De quoi parle-t-on?
Alors, petite réponse de Lucile Comeau avant qu'on entende Jean-Christophe Briançon sur ce point précis.
Juste parce que j'ai l'impression peut-être de pas avoir été très claire. Moi, je pense qu'elle ne s'interroge pas sur les fins politiques et que, en effet, le fait d'être de ce côté-là, entre guillemets, de l'échiquier politique, pour elle est une évidence. Et pour nous, c'est défini dès le début.
Mais moi, je ne sais même
début.
Pas ce qu'est ce côté-là. Quand je
Si, parce que vous savez ce que c'était que ces mouvements-là.
Ah bah, non, mais je parle dans le livre là.
Le livre fait référence à des choses qui sont situées maintenant, donc on peut imaginer que c'est une certaine forme de la gauche engagée.
Ça, j'avais compris. J'avais tout à fait compris qu'il s'agissait d'une certaine gauche très engagée.
Idéologique ne se pose pas. Elle s'interroge. Ah, mais je pense qu'elle ne veut rien représenter du tout. Elle, Nathalie Quintan, elle ne veut rien représenter.
Non, je ne parle pas d'elle.
Ah, mais ça, c'est un vaste débat qui, à mon avis, n'est pas le débat du livre, en effet.
Mais alors, c'est pas un livre politique.
Moi, je pense c'est parce que faire communauté,
si,
c'est une
que
question éminemment politique.
Quand elle se pose la question des moyens du collectif et de faire collectif dans l'espace public...
Non, faire communauté ne suffit pas. Dans ce cas, on peut faire le même roman au Front National, ils font communauté aussi. C'est quoi le sujet?
Ah bah oui, bien sûr, ils peuvent
faire communauté pour faire quoi dans la cité?
Mais je pense qu'en fait, c'est pas sa question. Après, vous pouvez juger ça insuffisant d'un point de vue politique, mais elle, je pense qu'elle se pose les questions du moyen, de ce que c'est que très concrètement, occuper l'espace public contre la police qui représente l'État.
Bah, alors, on va pas refaire la discussion sur le livre d'avant qui s'appelle Que faire des classes moyennes, et que je vous invite à relire, peut-être Florent Georgescu, pour savoir un peu ce qui est politiquement dans l'esprit de Nathalie Quintane. Alors c'est vrai qu'on
on parle de ce livre-là ce soir. Et qui est quand même la grande fresque politique de Nathalie Quintane, plus encore que le précédent livre.
Je ne crois pas non plus.
Jean-Christophe Briançon, qu'on n'a pas du tout entendu.
Pas encore, mais je suis finalement assez d'accord avec Florent, mais tout autant avec Lucille, parce que je pense que
il y a une communauté
et en même temps peut-être une bataille qui va se créer, je sais pas, mais en tout cas il y a effectivement dans ce livre certainement un manque de peut-être de pensée politique à proprement parler. Mais pour autant, finalement, je suis aussi d'accord avec Lucille pour dire que ce n'est pas le sujet de ce livre, à mon sens. Le sujet de ce livre se place bien ailleurs, et effectivement, elle n'est pas là pour nous expliquer les tenants et les aboutissants des modalités du combat politique qui était le sien. Elle est simplement là pour nous expliquer, d'une certaine manière, les modalités concrètes de la révolte et ce qui fait qu'on s'implique dans la révolte ou non, non seulement en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'auteur. Et en tant qu'auteur, elle y répond de deux manières, qui sont en l'occurrence dont il est difficile de dire qu'elles ne sont pas justes, puisqu'il y a la manière purement concrète de nous décrire au quotidien ce que c'est que de vouloir se révolter, manifestement pas toujours d'y arriver, mais en tout cas de vouloir et d'essayer. Ça implique de passer par des choses qui sont parfois d'une banalité crasse, voire même d'une médiocrité assez étonnante. Quand il s'agit par exemple tout simplement de sortir de chez soi quand il pleut pour aller manifester, bah parfois il est compliqué de sortir et on reste chez soi. C'est aussi ça le sujet.
Il y a des choses assez amusantes dans cet ordre-là, je suis tout à fait d'accord.
Mais au-delà de l'amusant, ça représente une véritable réalité de comment peut-on et comment doit-on se révolter aujourd'hui, mais aujourd'hui, hier, demain. Donc c'est une des réponses qu'elle donne, et au-delà de ça, elle donne aussi par son geste, je pense, pas de réponse sur la littérature politique, mais en tout cas, elle propose quelque chose sur ce que ce serait de faire de la littérature politique, ou en tout cas une littérature qui nous permettrait, ou qui permettrait à son auteur, de, comme elle le dit, faire partie de l'histoire. C'est une littérature qui, d'une certaine manière...
Il faut la voir pour en faire partie, il faut avoir une lucidité sur
l'histoire. On la voit de toute façon nécessairement, parce que comme dit Lucille, ces événements sont situés, de toute façon on les a vécus, et elles s'adressent à nous vivants. Je ne suis pas sûr que c'est un livre qui s'adresse à l'histoire.
Nous n'avons pas vécu leur sens. Le sens est toujours à gagner, toujours à construire, toujours à interpréter.
Mais le sens se construit de manière morcelée, et ce livre-là, d'une manière... permet à son lecteur d'avoir conscience d'avoir fait partie d'une histoire, en s'étant impliqué ou non.
On peut revenir vraiment aux choses absolument basiques et minimales, et j'entends bien que vous allez me dire que c'est pas de la politique, mais je reviens sur la question de sortir de chez soi. Moi, ça fait partie des pages que j'avais notées comme fortes sur cette colle qui nous tient chez nous, et qu'on ne sort jamais. Et effectivement, sortir et se rassembler à 2, 3, 4 ou 5, ça peut être le début de quelque chose. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'on va faire de ce quelque chose, puisque tout le livre montre aussi la capacité à faire quelque chose. On pourrait dire que c'est un constat d'échec, mais il n'empêche aussi, là je contredis évidemment Jean-Christophe Briançon, qu'elle écrit
elle
à
la toute... Elle refuse le constat d'échec. Elle attribue à l'ennemi le fait de dire qu'il ne s'est rien passé.
Je suis pas du tout d'accord avec vous, Florent.
Elle écrit quand même un moment, je suis là pour dire qu'il s'est passé quelque chose.
C'est exactement ce que j'allais dire, pour contredire Jean-Christophe Briançon, parce que je pense que si elle fait un livre pour l'avenir, elle le dit, elle y revient plusieurs fois, elle le dit de façon extrêmement explicite vers la toute fin du livre. Je me souviens avoir commencé en prévision de ce que tout ça ne serait pas cru plus tard, puisque tout ça n'était pas déjà vraiment cru, bien que se déroulant devant témoins et rapporteurs et parfois sous nos yeux, c'est-à-dire que j'admettais que faire ce que je fais consistait à fournir des preuves en prévision de procès futurs qui ne pouvaient pas avoir lieu au moment où ils auraient dû avoir lieu aujourd'hui, faute de sensibilité au présent, et je faisais tout ça d'abord, en italique, pour développer ma propre sensibilité au présent. C'est le début de quelque chose, et c'est vraiment une tentative de sortir de cette colle. Lucille Comeau.
En fait, je ne sais pas exactement quel débat on a, parce que je ne suis pas du tout sûre que ce livre donne...
Préciser,
on parlait
si
de sens ou de sens de l'histoire, je pense que le livre...
Je ne vais pas parler de sens de l'histoire, pardon. Le sens de ce qu'elle raconte, plus modestement.
Mais du coup, le sens, dans le sens de but politique, elle se situe dans la signification politique, enfin je veux dire la fin.
Non mais juste, pardon, je suis beaucoup plus élémentaire que vous, plus simple. Je dis juste, on parle de quoi dans ce livre ? C'était quoi? On luttait contre quoi? Voilà, c'est ça. Et moi,
son sujet. Parce que
on peut admettre que, par principe, c'est un petit problème quand même quand on fait de la politique, mais de ne pas savoir pourquoi
elle ne fait pas de politique.
Alors, déjà, ça dépend de ce qu'on fait comme politique. Parce que
elle fait de la politique, elle le dit à chaque pas.
Alors,
elle l'explique d'ailleurs à de nombreuses
reprises.
À quel point ce qui était intéressant dans ces mouvements-là, c'était qu'on se décalait complètement des modes de communication, justement, que sont les modes de communication de la politique traditionnelle. Elle le dit à plusieurs reprises. Elle parle du vote.
Mais c'est quoi ces modes de communication de la politique traditionnelle?
Le vote. Alors, il y a des passages extrêmement intéressants sur le vote.
Relevons l'aspect anti-parlementaire,
à son avis, tel qu'il existe aujourd'hui, ne suffit plus à faire démocratie et ne suffit plus à créer une impression de collectif. Et elle propose, à côté de ça, autre chose. Alors, peut-être que vous n'y voyez pas de validité, mais moi, je peux comprendre qu'on exclut tout à fait les modes de communication politique et d'investissement de la chose politique que sont le vote ou l'entrée au gouvernement, par exemple, en politique, ou le discours médiatique sur la politique, et de donner très simplement des modes d'action qui sont des modes d'investissement de la place publique. Alors peut-être que pour vous ça n'a pas de sens, mais moi je pense que investir la place publique par exemple, c'est politique en soi. Elle parle de ça très concrètement, des moyens avec lesquels on investit une place publique et à quel point ça a changé sa vie.
Lucie, une chose importante, c'est ce qu'elle dit aussi, ce qui se passe en dehors de Paris, chez elle aussi.
Oui,
qu'investir l'espace public, on l'a pas assez dit, il y a les allers-retours Paris.
Elle parle beaucoup de Nuit Debout. Elle parle de la place de la République à Paris, mais en effet, elle parle aussi d'une ville du Sud, d'une petite ville du Sud, où ça se passe aussi.
Et ça, c'est très important aussi.
Mais pour expliquer un peu mieux peut-être, le problème de tout cela, c'est pas... Je lui reproche pas juste un vide, je lui reproche aussi ce qu'elle remplace, ce qu'elle met dans ce vide. Ce qu'elle met dans ce vide, c'est une vision, souvent, pardonnez-moi, le mot est fort, mais complotiste de la réalité sociale. Je peux vous citer des pages. Il y a cette page où elle dit c'est vrai que du point de vue de la définition historique, on ne peut pas parler de fascisme, mais quand même, et elle dit, là, elle parle des coups de bâton des CRS, elle dit, par exemple, l'État français chargeant et éclatant au besoin la tête de ses citoyens récalcitrants contre le bitume. Ça veut dire quoi? On les tue? Ça veut dire quoi, une phrase pareille? C'est quoi cette violence? À un moment, elle décrit une manifestation où il y a des gaz lacrymogènes, elle dit c'est l'enfer. Vous savez, l'enfer politique, c'est autre chose que du gaz lacrymogène.
Quand vous êtes en tête de cortège et que vous prenez des gaz lacrymogènes, c'est un peu l'enfer. Par ailleurs, il y a un jeune homme qui vient de se faire arracher la main, on parle d'actualité,
en ramassant une grenade.
Oui, qui est un geste souvent fait par les manifestants pour les renvoyer ailleurs pour que ça leur explose pas.
Mais par ailleurs, elle parle de ce maire dans le conflit de Bure qui, selon elle, s'est vu persécuté par l'État, qu'on lui a fait fermer ses écoles, ses maisons de retraite. Vous savez que le maire dont on parle était le maire d'un village qui s'appelle Bonnet, dans la Meuse. C'était un maire d'un village de 215 habitants. Allez chercher dans ce village les écoles qu'on a fait fermer, etc. C'est faux. Il y a des choses simplement fausses. Elle dit que les Allemands...
Assez d'exemples, un dernier mot, Jean-Christophe Briançon.
C'est bourré de choses fausses.
Mais surtout là, on ne parle pas de littérature. Ouais, ce qui est quand même dommage, parce que la langue de Nathalie Quintane vaut quand même davantage que s'intéresser aux faits, parce que c'est pas vraiment...
Pas au meilleur là-dedans, mais pardonnez-moi, vous avez commencé avec raison en disant que c'était un livre politique. On peut parler de ce qu'il pose, en tout cas.
Un livre politique, c'est un livre politique par sa langue. Enfin, je veux dire, la langue de Nathalie Quintane l'est quand elle fait image,
Dit elle-même que ça ne suffit plus que la poétique soit une politique. Elle le dit, c'est une page très dense de ce livre. Non, ça débouche sur l'action, sur la pensée de l'action. On n'a pas parlé des migrants, où il y a des choses très intéressantes.
On n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps.
Ce qui est encore d'autres questions.
Jean-Christophe Briançon.
Je pense aussi comme Florent qu'il y a quand même effectivement de temps en temps une petite exagération qui peut se faire dans les exemples qui sont donnés, entre autres dans le parallèle qu'elle peut le faire avec le Brésil, parce que c'est aussi ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que par son histoire personnelle qu'elle mêle à celle de la communauté, elle nous permet d'établir une certaine vision de l'histoire qui est parfois intéressante, et ce parallèle qu'elle fait avec le Brésil est, je trouve, intéressant, mais pour autant, il faut savoir quand même le mesurer, et je trouve qu'en l'occurrence, c'est un petit peu, même si elle ne dit pas qu'en France, il se passe la même chose qui peut se passer.
Elle ne fait pas de parallèle, elle parle de son expérience propre. Elle va au Brésil, elle rentre du Brésil, ça lui a amené un tas de réflexions, et elle ne fait aucun parallèle.
Elle ne mène aucune théorie, il n'y a pas de théorie dans ce livre. Moi, en Espagne ou en Italie aussi, elle nous en parle pas. Elle nous parle du Brésil. C'est pas pour rien. Ça veut dire quelque chose. Et c'est pas grave. Ça veut dire quelque chose qui peut être intéressant, mais en l'occurrence, dont le sous-entendu peut être lourd de sens, ce qui n'empêche que, contrairement à ce que sous-entend Florent, je ne crois pas qu'il s'agit purement et simplement d'un geste politique. Il s'agit d'une littérature qui se veut embrasser des thématiques politiques, mais qui avant tout rejoint pour moi une forme de poésie, ne serait-ce que par la simple existence du projet qui veut, comme le disait Arnaud, sans pour autant en faire un livre d'histoire, qui veut de toute façon que la littérature soit toujours un mode opératoire de lutte contre l'oubli. Et en l'occurrence, je trouve que c'est très important de le faire. Si ça ne sert pas pour l'histoire, en tout cas, ça nous sert à nous aujourd'hui, parce que 2 ans après, on a peut-être déjà oublié.
Bon,
nous sommes tous d'accord, c'est pas un livre politique.
C'est un livre politique, il y en a 2 autres à suivre dans notre émission.
Mais tous les livres sont politiques, bah, on va en parler avec Edouard Lee, avec Italo Calvino.
On en arrive à ce degré de généralité avec Quintane,
précisément. Bon. Alors, vos avis divergent, faites-vous un avis par vous-même en lisant Un œil en moins, parce qu'on n'a pas parlé du chat, c'est quand même évidemment très important. Ce livre de Nathalie Quintane, publié chez POL et assure dans la dispute une nouvelle traduction d'Italo Calvino et un nouveau livre pour Edouard Louis.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec un roman d'Italo Calvino. Je l'ai bien fait ou pas ?
Là-dessus, c'est parfait.
Ouais. Italo Calvino qui bénéficie chez Gallimard d'une nouvelle traduction dans cette fameuse trilogie fantastique que Calvino appelait Nos Ancêtres. Trilogie composée du Chevalier Inexistant, du Vicomte Pourfendu et du Baron Perché. Nous avons choisi ce dernier livre. Les 3 étant donc proposés dans cette nouvelle traduction signée Martin Rueff. C'est par refus de manger des escargots que le jeune Cosimo, fils de baron, décide de se réfugier dans un arbre et va y prendre goût. Les premières journées de Cosimo sur les arbres n'avaient ni but précis ni programme. Elles étaient simplement dominées par le désir de prendre connaissance et possession de son royaume. Il aurait voulu tout de suite l'explorer jusqu'à ses derniers confins, étudier toutes les possibilités qu'il lui offrait, le découvrir arbre après arbre, branche après branche. Je dis bien « il aurait voulu », mais en fait, nous le voyons toujours surgir à nouveau au-dessus de nos têtes avec cet air très affairé et très rapide des animaux sauvages qui, même quand on les voit immobiles et ramassés sur eux-mêmes, donnent toujours l'impression d'être sur le point de filer d'un bond. Pourquoi revenait-il dans notre parc ? À le voir voltiger d'un platane à une yeuse dans le rayon de la longue vue maternelle, on aurait dit que la force qui le poussait, la passion qui le dominait, était toujours de nous faire la guerre, la volonté de nous mettre en peine ou en colère. Mais en fait, il ne faisait que passer, c'était le mur de Magnolia qui l'attirait. C'était là que nous le voyions disparaître à toute heure, même quand la petite fille blonde ne pouvait certes pas être levée, ou quand l'équipe des gouvernantes ou tantes l'avait déjà certainement fait rentrer. Dans le jardin des Dondarriva, les branches se tendaient comme des trompes d'animaux extraordinaires et du sol s'ouvraient des étoiles de feuilles dentelées comme la peau verte d'un reptile et ondoyaient de frêles bambous jaunes avec des froissements de papier. De l'arbre le plus haut, Cosimo, saisi par le désir de jouir pleinement de ce vert différent et de cette lumière différente qui en filtrait, et de ce silence différent, se laissait aller tête en bas et le jardin renversé devenait une forêt, non plus une forêt de la terre, mais un nouveau monde. Voilà pour cet extrait de cette nouvelle traduction du Baron Perché d'Italo Calvino, publié chez Gallimard, traduction de Martin Rueff. Et Florent Georgesco commence à nous en parler.
Vraiment, c'est une merveilleuse occasion de relire ces livres que... Alors, c'est très impressionnant parce que je crois que je ne les avais pas lus depuis l'adolescence.
Pareil.
On ne lit pas le Baron Perché de la même manière selon qu'on a 16 ans ou X.
Pareil.
Pareil. C'est très frappant parce qu'au fond,
je crois qu'il est impossible, adolescent en tout cas, de lire ce livre sans se dire, moi aussi, je vais finir par monter dans un arbre et par ne plus en descendre. Et puis, le temps passe et on s'aperçoit que finalement, on a raté sa vie parce qu'on ne l'aura pas passé au sommet des arbres et que de toute façon, maintenant, on en serait bien incapable. Et donc, il y a un poids physique de la lecture de ce livre. C'est un imaginaire qui appelle le mouvement du corps, en quelque sorte. Et ça ne peut pas être la même chose, selon qu'on est jeune ou plus. Et donc, déjà, c'est un bonheur de s'apercevoir que, justement, cet imaginaire, malgré tout, malgré toutes les différences, malgré la... se prête à toutes les lectures. Il est d'une richesse qui permet d'y entrer à tout moment. Et au fond de repartir tout à fait autrement avec ce Cosimo dans les arbres. Enfin, ça a été assez éblouissant pour moi en fait de le relire maintenant parce que il y a toute cette différence, tout le fait que la rêverie ne peut pas être la même. Or, c'est le livre le plus puissant qui soit pour porter à la rêverie. Et puis, le temps passant, on le lit autrement, on attend autre chose. Je dois dire, j'ai eu un peu peur. C'est comme avec toute cette trilogie, on a peut-être devant nous les plus belles idées, les idées les plus fracassantes qu'un romancier ait eues dans les 100 dernières années, les plus amusantes, en tout cas, les plus riches. Et rien n'est plus difficile que de rester à la hauteur d'une idée aussi géniale. Et ce que j'ai vu là, en le relisant, c'est à quel point Calvino a un art de maintenir, de rester lui aussi au sommet de ses arbres, de passer de l'un à l'autre, du début à la fin du livre, qui est admirable. C'est vraiment une idée géniale qui ne tue pas un livre, ce qui au fond est assez rare. Il y a beaucoup de livres qui sont tués par leur idée géniale parce qu'au fond, on en attend trop. On attend énormément d'une idée pareille et on a exactement, non pas ce qu'on attendait, mais mieux. Ouais. Et c'est vraiment, c'est ce que j'ai ressenti le plus fort en relisant ça, c'est à quel point il a créé vraiment un monde, il a mis un nombre de vues, de points de vue, en fait, d'angles pour exploiter son idée absolument considérable. Et il y a par exemple, enfin, il y a un sens de l'aventure, il y a un sens de la... En fait, c'est un livre qui aurait pu être évanescent et qui est en permanence le contraire de ça. Mmh. Il rebondit comme son personnage en permanence. Quoi. Et c'est, voilà, il y aurait mille autres choses.
Alors,
à dire,
parmi les mille autres choses, celles dites à l'instant par Jean-Christophe Brianchon.
Alors, je suis peut-être un petit peu moins sensible que Florent à cet imaginaire, bien que j'y ai trouvé quelque chose quand même. Après, j'y ai trouvé quand même bien moins, alors c'est peut-être moi qui me suis désenchanté entre-temps, mais bien moins de possibilités que je n'y avais trouvé plus jeune, même si, malgré tout, j'y ai quand même retrouvé... j'y ai trouvé plutôt des choses que je n'avais pas vues justement. On va peut-être revenir dessus, je sais pas, sur le caractère politique de ce livre qui n'était pas du
tout... Il a fait nuit debout, Calvino.
Nuit perchée.
Alors, j'aimerais d'ailleurs bien qu'il nous précise exactement pourquoi et dans quelles circonstances il est monté sur cet arbre. Je trouve que c'est un peu flou tout ça. Je sais pas si Florent vous lui reprocherait la même chose. En tout cas, je trouve que voilà, cette dimension politique est intéressante. Après, évidemment, bon, on peut redire que c'est un livre important et à l'imaginaire foisonnant. Pour autant, je me suis réellement posé la question de la nécessité de cette nouvelle traduction dont je n'ai pas question à laquelle je n'ai pas exactement trouvé la réponse, parce que après avoir comparé les deux, après avoir lu l'un puis l'autre, j'ai trouvé qu'à mon sens, cette nouvelle traduction participait à l'image qu'on peut avoir de ce livre, qui est une image fausse, qui est une image d'un livre qui serait finalement justement un gentil conte philosophique pour adolescents. Je pense que ça peut être plus puissant que ça, c'est plus puissant que ça, et cette traduction, de temps à autre, aplatit un petit peu l'essence, rallonge les phrases de manière un petit peu artificielle par rapport à celle d'origine, qui était beaucoup plus sèche, beaucoup plus tranchante, avec des expressions et des images beaucoup plus claires. Ici, on est dans une traduction qui étire l'imaginaire par un excès de langage qui n'est pas toujours très bien trouvé. Donc je me suis réellement posé la question de cette nécessité, malgré quelques autres éléments que j'ai trouvé ciné intéressant, en tout cas, oui, agréable à lire. Comme, par exemple, il a réitalianisé, si on peut le dire, les noms des villes et des familles qui n'étaient plus.
Ah non, pour moi, c'est le seul problème de cette traduction que je trouve très nettement meilleure que la première. Et alors que ça, c'est une idiotie de traduire les noms. Parce que Calvino joue avec les noms de famille en permanence, qui sont extrêmement charmants, qui sont le héros s'appelle par exemple, si on traduit l'averse du rondeau, l'averse ou petite pluie, c'est ce que signifie son nom en italien. Calvino, le lecteur italien sait en permanence ce que signifient les noms de famille des personnages, et je ne vois pas pourquoi nous en sommes privés. C'est le seul reproche que moi je ferais à Rueff.
Alors peut-être quand même sur cette traduction, moi il m'a semblé au contraire qu'elle remettait les choses à leur place. Et
oui,
dans cette édition, moi je ne l'avais jamais lu, Calvino a écrit pour une édition quelques années après la première parution une préface, alors qu'il a évidemment signé d'un pseudonyme se faisant passer pour un universitaire, nous expliquant ce que l'auteur a voulu dire. Mais on y trouve des choses tout à fait éclairantes. Sommes-nous face à une parodie de roman historique? Pas exactement. Pour situer exactement le fond du livre, il faut rappeler que pendant les décennies précédentes, les historiens italiens, et spécialement ceux du milieu auquel l'auteur appartient, le Turin de la maison d'édition Einaudi, se sont occupés pour l'essentiel de la période qui précède, accompagne et suit la Révolution française, les Lumières, etc. Le Baron Percher a aussi cette signification, permettre à l'auteur de jouer, à envahir le terrain de ses amis historiens. Et je trouve que c'est absolument ça, et c'est une chose qu'on voit davantage dans cette nouvelle traduction de Martin Rueff, qui prend le temps d'amplifier la phrase, de l'allonger, de la respecter telle qu'elle était. Elle est beaucoup plus 18e-miste que la traduction qu'on avait auparavant.
La ponctuation 18e,
ne serait-ce que pour ça,
du point de suspens, du point virgule.
Il me semble qu'on est davantage dans une vérité du projet de Calvino. Lucille Comeau.
Alors moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais lu, et c'est vrai que j'ai très vite regretté de ne pas l'avoir lu plus jeune, parce que je trouve ça difficile pour une première lecture, peut-être de commencer à mon âge. Je trouve qu'il y a quelque chose de difficilement situable, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne se demande absolument pas quand on a 15 ans, dans justement la matière historique que ça nous donne à lire, et notamment, enfin moi j'ai beaucoup pensé à Voltaire parce que j'ai vraiment vu ça comme un conte philosophique, et du coup dans un premier temps ça m'a un petit peu fermé les perspectives romanesques, je pense, du roman, qui sont venues plus tard quand j'ai vraiment compris que en fait ce personnage de Cosimo est pour l'auteur non seulement un point de vue parfait, puisque de toute façon de manière pratique il surplombe tout, mais aussi un moteur à histoire incroyable. J'aime beaucoup notamment ce passage où dans les environs toutes les femmes tombent enceintes. Et évidemment, tout le monde pense que Cosimo est le père, et c'est là qu'on voit exactement comment fonctionne le roman. C'est vraiment comme une machine à raconter des histoires, et on a l'impression que ça ne pourrait jamais s'arrêter. En effet, on a un petit peu peur au début. On se dit, bon, une fois qu'il est perché, ça arrive au bout de 10 pages. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, donc, il y a à la fois ce plaisir, évidemment, de l'histoire qui s'engendre en permanence et qui ne s'arrête jamais. Et puis, il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est dans les histoires de Robinson, dans les Robinsonnades comme ça, tout ce qui est technique, comment on mange quand on est en haut d'un arbre, comment on fait ses besoins, comment on fait l'amour, comment on dort. Alors ça, j'adore l'espèce de loutre en fourrure dans laquelle on se blottit pour dormir, vraiment génial, je veux la même. Donc tout ça, vraiment tout ce qui est détails pratiques, toutes les descriptions de la manière d'organiser sa vie, comme j'adore m'organiser, d'organiser sa vie en haut des arbres, vraiment ça, c'est je trouve ça assez jubilatoire.
Alors pour revenir sur cette préface signée d'un faux nom, et pour revenir à un débat précédent, de manière plus précise, donc, s'agit-il d'une allégorie du poète, de sa manière de vivre en suspension du monde? Est-ce une allégorie du désengagement politique? Ou au contraire de l'engagement? Le rationalisme des Lumières est-il proposé ici comme une idée actuelle, ou est-il soumis à l'ironie de la même manière que Larios ou Cervantes se moquaient de la chevalerie? Ou alors, est-ce que Cosimo veut proposer une nouvelle synthèse du rationnel et de l'irrationnel? Mais quelle est l'attitude de l'auteur envers Cosimo? J'adore parce que c'est évidemment Calvino qui nous donne toutes ces pistes à manger. Elles sont toutes bonnes,
Florent Georgescu. Oui, et il explique qu'elles le sont toutes, donc aucune ne l'emporte. D'ailleurs, il conteste dans cette préface l'expression conte philosophique.
Oui, oui.
Et il le conteste à sa manière, c'est-à-dire il dit c'est pas tout à fait ça.
En rappelant quand même.
Mais il compare, il dit que Voltaire, par exemple, avait une thèse philosophique à déployer, dit-il. Mm-hmm. Et il explique précisément, chez moi,
Chez
l'auteur du Baron Perché, dit-il, l'image vient en premier, le récit n'est la logique qui relie le développement des images. Et c'est ça, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, c'est cette production de fiction. Et le sens par bonheur n'est jamais donné, et il se multiplie. Il se multiplie par les sentiments que le livre nous donne. C'est pour ça que j'insistais sur les sentiments, presque l'autobiographie qu'on a dans la lecture de ce livre, parce que son seul sens, pour revenir à ce dont on parlait, c'est l'ensemble des émotions qu'il procure. Et il y a quelque chose, je pense, de très profond dans le livre, que aujourd'hui on lit sans doute avec plus de force qu'à l'époque de sa sortie. C'est le rapport à la nature. D'ailleurs, lui-même dit, toujours dans cette riche préface, qu'il parle d'un monde qui n'existe plus parce que déjà beaucoup de ces arbres ont été rasés. Mais il y a même, dans l'angoisse contemporaine de par rapport au cauchemar de disparition du monde naturel, quelque chose qui réveille, je pense, l'affection qu'on peut avoir pour ce livre et qui nous permet de comprendre que la richesse du livre tient à ce rapport très intime, très profond à la nature. S'il y a un sens à cela, il est de ce côté-là et il se déploie justement de manière extrêmement touchante, en particulier aujourd'hui.
On doit s'arrêter là pour Le Baron Perché parce qu'il nous reste un livre à notre programme. Alors, Le Baron Perché d'Alo Clavillon, nouvelle traduction de Martin Rueff. Mais lisez aussi et faites lire aux jeunes gens qui vous entourent Le Vicomte Pourfendu, Le Chevalier Inexistant, qui ont chacun un charme, un goût et un génie absolument. Ça m'a beaucoup ému de retrouver ces livres qui ont été très importants pour moi.
On peut au moins reconnaître cette nouvelle traduction, cette force de remettre Calvino dans le centre.
Il faut toujours le remettre.
On le remet.
Voilà, c'est chez Gallimard que tout ça est sorti.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième livre au sommaire de la dispute, c'est celui d'Edouard Louis, Qui a tué mon père, publié au Seuil, révélé avec fracas pour en finir avec Eddy Bellegueule, le jeune phénomène des lettres françaises, ne cesse quand même depuis de susciter des polémiques. Souvent, il les suscite, mais pas seulement. Le précédent ouvrage, Histoire de la violence, avait déchaîné ici une belle dispute. Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? Le mois dernier, je suis venu te voir dans la petite ville du nord où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vu depuis plusieurs mois. C'était il y a longtemps. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai regardé, j'essayais de lire les années passées loin de toi sur ton visage. Plus tard, la femme avec qui tu vis m'a expliqué que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit, où ton cœur s'arrête. Il ne peut plus battre sans assistance, sans l'aide d'une machine. Il ne veut plus battre. Quand tu t'es levé pour aller aux toilettes et que tu es revenu, je l'ai vu, les 10 mètres que tu as parcourus t'ont essoufflé et tu as dû t'asseoir pour reprendre ta respiration. Tu t'es excusé. C'est une chose nouvelle, les excuses de ta part, je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une forme de diabète grave, en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle, ta poitrine se vidait de son oxygène comme si elle fuyait, même parler était un effort intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opéré pour ce que les médecins appellent une éventration. Je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même. Ton ventre s'étire vers le sol. Il s'étire trop fort, tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse. Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger. Tu n'as plus le droit de boire d'alcool. Tu ne peux plus te doucher ou aller travailler sans prendre des risques immenses. Tu as à peine plus de 50 ans. Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce. Politique, le mot est dans l'extrait. Politique, on va en parler, Jean-Christophe Brianchon, à propos de ce livre d'Edouard Louis, Qui a tué mon père. Je précise que le titre est sans point d'interrogation. puisqu'il désigne qui ?
La politique, justement.
Et des noms.
Et des noms en particulier. C'est peut-être d'ailleurs un des écueils du livre, un petit peu de la même manière que ça l'était chez Nathalie Quintane, quand elle pointait du doigt en particulier des gens. C'est de toute façon toujours compliqué, d'autant plus quand on fait de la littérature, puisque quoi qu'il dise, il dit dans ce livre qu'il ne fait pas de littérature. Mais malgré tout, il en fait. Et pointer comme ça le réel et les hommes politiques en littérature, c'est souvent un petit peu, on va dire, un petit peu casse-gueule. En l'occurrence, là, c'est peut-être à ces endroits-là que le livre est le moins, on va dire, le moins beau, parce que c'est aussi ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'au milieu d'un amas de propos politiques avec lesquels on peut être d'accord ou non, mais qui de toute façon sont assez simplistes, malgré tout, et ça me, pour être tout à fait honnête, ça me fait un petit peu mal de le dire, parce que j'aurais bien aimé ne pas l'aimer, mais malgré tout, à certains instants, Édouard Louis, je dirais pas a du style, mais en tout cas trouve des phrases et des formules qui sont d'une beauté assez remarquable, selon moi, sans pour autant donner l'ampleur qu'on attendrait d'un geste pareil, parce que finalement l'adresse est quand même très grave, ce dont il nous parle est très important, et très accessoirement important et intéressant, parce que dans l'extrait dont vous avez parlé, ce rapport du corps à la politique et à la violence politique est selon moi très intéressant. C'est quelque chose que je n'avais pas encore vu ou lu en littérature exactement, et je trouve que dit de manière aussi sèche et aussi aussi brutale, c'est tout de même d'une certaine façon intéressant, même si après on retrouve quand même pas mal de tics et pas mal de problèmes qui sont ceux de la littérature d'Édouard Louis, y compris son omniprésence et ses contradictions qu'on retrouve dès la petite introduction qu'il fait dans son livre, dans laquelle il donne des indications de mise en scène, puisque après Eddie Bellegueule, qui avait été mise en scène par Richard Brunel, on va avoir l'histoire de la violence par Ostermeyer dans, je crois que ça commence dans 10 jours là, et puis ce texte-ci qui sera mis en scène par Stanislas Nordet en 2019, donc il donne ces petites indications aux metteurs en scène qui souhaiteront se pencher sur son œuvre, et au sein même de ces indications, ces contradictions pointent déjà, puisque lui qui se veut auteur, on va dire d'une certaine manière bourdieusien, ou en tout cas qui emprunte une posture bourdieusienne, nous dit déjà à cet instant-là, à l'instant où il nous montre dans cette introduction que lui est parvenu à, ou en tout cas va parvenir à décrire la vie que son père ne pouvait pas lui-même décrire, au moment où il nous dit ça, il nous dit par définition qu'il s'est défait de la vie de ce père et de la vie meurtrie par le politique de ce père, et donc il finit par être évidemment en contradiction avec sa posture éternelle bourdieusienne.
Lucille Comeau.
Non, mais la contradiction, elle est surtout vraiment très profonde dans l'entièreté de son œuvre. Moi, j'avais plutôt apprécié en finir avec Eddie Bellegueule, parce que j'avais reconnu la force, je pense, assez sincère d'un geste d'arrachement, parce que c'était ça. Et c'était violent, parce qu'en effet, il y avait cette sécheresse dont vous parlez, qui apparaît un tout petit peu dans le texte qu'a lu Arnaud, mais qui, quand même, est totalement sinon absente d'un livre dégoulinant de lyrisme, hein, par ailleurs. En fait, là, ce qui est très dommage, je trouve, et assez révoltant, c'est que c'est un livre qui, à mon avis, est un livre de remords, de retour sur une posture qui est une posture de violence et de rupture familiale. Et donc là, il y a une forme d'exonération finalement du père, puisque finalement il l'avait tué, son père, dans le premier livre. Là, finalement, en fait, c'est pas lui qui l'avait tué, c'est Emmanuel Macron. Donc du coup, ce qui est terrible dans ce livre, c'est que je trouve que non seulement il est vraiment très mauvais, et que par ailleurs, il efface en quelque sorte la première démarche de cet écrivain, qui était une démarche forte de rupture et de brutalité. Donc ça me pose problème. Après, vraiment sur le style, c'est ni fait ni à faire. Enfin, je veux dire, déjà, c'est un tout petit livre, c'est indigent. Penser qu'on peut tenir une posture politique n'importe quelle posture dans ces quelques pages qui sont empreintes d'un lyrisme absolument dégoulinant, vraiment, moi, je comprends pas comment on peut sortir un livre pareil, en fait. Je ne comprends pas. Et à la limite, la deuxième partie que vous aimez moins, qui est là, pour le coup, qui s'assume comme une tribune, à la limite, oui. On pourrait lire ça dans Libé, bon, on serait pas mécontent. Voilà, à la limite, comme ça s'assume assume comme une tribune avec un style journalistique de colère. Ceux qui font les lois ne sont pas impactés par
les lois, mais ceux qui les plus démunis
sont impactés.
Si Édouard
Louis veut être éditorialiste, pourquoi pas ? Je veux dire, ça, c'est un bon manifeste. Mais toute la première partie n'est pas... Oui, voilà, bon, admettons. Mais du coup, ça ne fait pas littérature du tout, quoi.
Florent Georgesco.
Ce qui est amusant, c'est que c'est l'inverse de Quintane pour moi. C'est, Quintane souffre de parler politique sans parler politique, de n'avoir, rien à dire sur la politique. Le problème d'Édouard Louis, c'est vraiment que lui, il a beaucoup trop à dire. C'est-à-dire qu'il a des schémas de pensée. Il a des schémas tout prêts pour écraser le réel et lui donner un sens définitif. C'est le schéma d'un post-crypto-bourdieusisme mal digéré.
C'est le schéma militant.
Le schéma militant. Donc le schéma, c'est...
qui s'incarne dans
nous
cette
sommes dans
ligne,
la domination, la politique tue, oui.
Qui s'incarne dans cette ligne, haine de l'homosexualité égale pauvreté.
Et oui, ça c'est...
C'est une phrase extraite de ce livre. Hein.
Absolument. Non, mais, parce que...
Je prends l'exemple
et
plus
Et c'est un très
frappant.
Bon exemple, c'est la page où il explique que son père n'a pas fait d'études parce que dans son milieu, faire des études, c'était un truc de fille et d'homosexuel. Ce qui fait partie de ces nombreux trucs complètement délirants qu'il y a dans ce livre, politiquement, là aussi, mais parce qu'encore une fois, il voit tout à travers une grille extrêmement simpliste, donc forcément, il peut dire beaucoup d'absurdités, enfin, comme toujours, quand on prend cette méthode. En l'occurrence, dire qu'en gros, lui, Édouard Louis, est le premier issu des milieux populaires à s'en être sorti par l'école, mais c'est se foutre de la gueule du monde, pardon, c'est assez dégueulasse par rapport à des millions de gens qui, eux, ont travaillé à l'école et ont essayé de s'en sortir par là. C'est totalement faux de dire que son père était conditionné pour ne pas bien travailler à l'école. C'est se moquer du monde de dire ça. Et il se moque du monde dans cette fin, cette tribune de Libé, disiez-vous, Lucille, où il donne les noms des politiques. Alors, ce qu'il fait précisément, c'est-à-dire on a pris telle mesure, c'est-à-dire on a déremboursé tel médicament, et donc mon père va mourir, etc. Or, le problème sur ça, c'est qu'il n'est pas honnête dans la description de la situation de son père, parce qu'il est dans un raisonnement de type matérialiste, il explique les conditions concrètes physiques de la condition de son père, mais il ne dit absolument pas tout. Son père, dit-il, a eu un accident du travail, mais on ne nous dit pas ce qui s'est passé à son égard. On n'a pas en France, il y a des lois qui font que quand on a un accident du travail, on a une couverture. Il devrait avoir droit, vu qu'il dit que son dos est fichu, il devrait avoir droit à une pension d'invalidité. Il n'en parle jamais, il ne parle que de problèmes qu'on ne peut pas vérifier par rapport au RSA. Tout ça est très brumeux, c'est-à-dire là où il prétend être sec et précis, il est brumeux. Mais quand même, cela dit, je ne suis pas totalement d'accord littérairement avec Lucille. Je trouve que tout cela est un aspect de ce livre qui est souvent insupportable et qui est de toute façon d'un schématisme de gamin. Enfin, c'est extrêmement puéril idéologiquement. Mais il y a quand même le portrait d'un homme, son père. Il y a quand même des notations sur la vie réelle, celles qui ne sont pas passées au crible de la pensée idéologique, et elles sont très présentes vers le milieu du livre, quand il raconte des souvenirs plus précis, plus concrets. Il y a quand même une force là, et là, il a beaucoup moins ce lyrisme mal contrôlé dont vous parliez.
C'est un lyrisme en creux, un lyrisme blanc, mais c'est du lyrisme quand même.
Il y a de la réalité concrète quand même là.
Oui, par exemple, il me semble souvent que je t'aime, mis en paragraphe entre les descriptions. Non mais sérieusement, enfin, bref. Moi, ce que je trouve, c'est qu'à la limite, la validité de sa grille politique, c'est même pas une question. Et j'entends des gens en parler dans des émissions de radio ou dans des journaux, alors qu'en fait, c'est même pas la question. C'est en effet tellement primaire que son engagement, il est même pas questionnable. Et c'est ça que je trouve terrible par rapport à sa première démarche. C'est-à-dire qu'on en arrive à ce que la singularité de l'expérience, qui était la singularité de l'expérience dont il faisait preuve dans Eddie Bellegueule, qui était vraiment singulier, ne donnait pas lieu à des généralisations comme ça d'ordre idéologique totalement primaire. Là, en l'occurrence, on a vraiment l'impression qu'il utilise une expérience pour faire des généralités dont vous avez lu certains, mais qui sont même pas vraies ou fausses. C'est-à-dire, la question politique ne se pose pas. On n'y arrive même pas. C'est bien ça le problème. On reste en deçà et de la littérature et de la réflexion politique. Donc c'est rien.
Allez, pour finir, quelques avis transmis par Boris Pino.
Imposture littéraire, écrit Samuel Martin sur Twitter. Alphonsine confie avoir eu quelques réserves sur En finir avec Eddie Bellegueule, mais s'était promis de suivre le travail d'Édouard Louis. C'est chose faite, écrit-elle, et il m'accueillit d'un coup. parfait pour réinterroger le rapport littérature-politique. Et un mot de la Bleue, toujours sur Twitter, dire l'amour au père avec la douceur du pardon et la violence du souvenir, c'est brut, tendre, vif, un cri d'amour et d'injustice. Édouard Louis écrit et danse. Pour qu'on ne détourne pas les yeux, il faut juste regarder l'amour et la vérité en face.
Un livre qui divise de toute façon sur sa réception, c'est encore une fois le cas de ce livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, publié au Seuil. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Camille André qui nous a rejoint après avoir live tweeté. Comme il est très tard, on va passer à ce soir. Hein, les invitations à gagner pour Bérénice, mise en scène par Céline Pote, un spectacle qu'on aime beaucoup avec Lucille Comeau. Ce seront des places à gagner pour mardi 29 mai à 20h à l'Odéon aux ateliers Berthier à Paris. La question.
Quel acteur incarne Titus dans l'adaptation de Bérénice sur grand écran par Jean-Daniel Verhaeghe et Jean-Claude Carrière?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeur FC. @radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain, 19h, nous serons en direct en public du Bel Air, au Bleu Bar de la Maison de la Radio pour une dispute consacrée au cinéma. On parlera politique avec Lucille Comeau, Charlotte Garçon et Thierry Chaise. À notre affiche, L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan Klipper et puis Frontières d'Apolline Traoré.